Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour, du nord au sud. Et aujourd'hui, les nouveaux enjeux, les nouveaux visages de l'expatriation. Quitter son pays pour accepter un poste à l'étranger, l'expérience est souvent tentante, mais comment faire lorsque l'on est en couple? Le conjoint suiveur doit-il mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses? Et puis plus largement, quels sont aujourd'hui les nouveaux profils des expatriés? Quels sont les bénéfices réels de l'expatriation sur un parcours professionnel? Comment réussir aussi son retour, si tant est que l'on envisage un retour? Plus d'1,5 million de Français sont expatriés aujourd'hui, leur nombre est en augmentation, mais bien sûr dans les entreprises du monde entier, on trouve un large brassage de travailleurs qualifiés, multiculturels. Alors vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous vous sentez concerné par ces questions, quelle que soit votre nationalité, le pays où vous vivez. N'attendez pas la fin de l'émission surtout pour nous appeler parce qu'après vous êtes déçus. Le numéro de téléphone à contacter, à composer dès maintenant, c'est le 33 1 84 22 71 71. Dans le studio de RFI, deux spécialistes de l'expatriation, deux femmes d'ailleurs. Comme par hasard, Patricia Glazel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Berlitz Consulting. Donc qui fait du conseil interculturel aux entreprises, hein,
c'est bien ça. C'est vraiment ça.
Et vous avez vous-même pas mal bougé dans votre vie, non?
Oui, 20 pays, 11 expatriations.
Ah oui, je vais même pas vous demander de tous les citer alors.
Mais effectivement, j'ai beaucoup bougé.
L'Asie,
je suis passionnée.
L'Europe,
Asie, Europe, Afrique, beaucoup aussi. C'est un continent dans lequel je suis née en fait. Et donc prendre en compte les problématiques qui se posent dans un parcours à l'international, c'est devenu un peu mon fer de lance.
Stéphanie Talleux, vous êtes consultante spécialiste de l'expatriation et des carrières nomades. Vous nous direz d'ailleurs quelle est la différence. Hein. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Ça a été le cas, vous aussi, vous avez beaucoup bougé dans votre vie?
Oui, je suis partie à l'âge de 28 ans en famille à Londres et j'ai vécu à Singapour et Hong Kong également.
Vous avez publié plusieurs guides sur le sujet, « Réussir ma première expatriation » et puis « Conjoint d'expatriés, votre carrière continue ». Ça, ça demande à être prouvé. Et quant à vous, les voisines et les voisins, que pensez-vous donc de tout ce qu'on va dire? Et surtout, je voudrais vous livrer un premier témoignage. En France, j'étais Sandra. À Singapour, je suis devenue Sandra, femme de marque. Malgré moi, je me suis transformée en expat wife, soit une femme aisée qui ne travaille pas et qui passe ses journées à faire du shopping. Alors, est-ce que c'est toujours le cas, ces expat wife? Nous parlons des nouveaux visages de l'expatriation aujourd'hui. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Encore un autre témoignage à vous livrer, Patricia Glazel et Stéphanie Talleux. Celui-ci sur les réseaux sociaux qui a été posté sur le fil Facebook de notre émission. Maëva nous dit « Tout dépend du pays où on s'expatrie. En île Maurice, à l'île Maurice par exemple, un seul des conjoints peut travailler, l'autre doit rester à la maison. Pour ne pas léser ce dernier, il faut qu'il fasse des séances chez le psychologue et accepter sa situation car ce n'est pas facile pour une personne qui avait l'habitude d'être active. » Maëva, on aurait bien aimé que vous nous laissiez votre numéro de téléphone pour pouvoir dialoguer avec vous. Hein, tout de même. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage?
Je ressens ici des freins internes et il y a un message vraiment que j'ai envie de laisser à vos auditeurs. C'est qu'il faut soi-même décider de ce que l'on veut faire et y mettre les moyens, parce que là ici je ressens des freins culturel, des freins qu'on a de la communauté expatriée je voudrais
vous voulez dire que c'est pas parce qu'on est à l'île Maurice et non pas à
absolument
New York
pas,
que
non.
On est conjoint suivant et qu'on peut rien faire
absolument
de sa carrière.
Absolument pas. Les solutions existent, les possibilités de se déployer professionnellement sont multiples. Il faut s'ouvrir à ce champ des possibilités.
Patricia.
Oui, on sait qu'aujourd'hui vous parliez des différentes phases de l'expatriation, elles sont à tout niveau, depuis les programmes Erasmus, les VIE, les jeunes potentiels, les voyageurs multiples. La problématique liée au conjoint, la carrière duelle, les third country national qui vont être les expatriés dans le continent africain mais considérés comme tels. On voit bien qu'on a une complexification, une ramification, parce que, et plein de noms qui font qu'on s'intéresse, c'est plus juste un champ d'expatriés. On sait de quoi on parle en fait, mais on voit que ça demande de professionnaliser un champ qui était du domaine des aventuriers qui avaient envie de partir. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut changer. Il faut se dire, je suis un professionnel, j'ai une mission, j'ai des objectifs pour cette mission, et que l'on soit l'expatrié ou le conjoint. Et c'est là qu'on peut faire la différence.
Alors vous voulez dire que le cadre de banque, monsieur qui part avec sa femme, les trois enfants, l'école payée dans le pays d'accueil, un très beau contrat, tout ça est devenu assez minoritaire.
Tout à fait. C'est une vision stéréotypée de l'expatriation qui était très confortable, mais qui empêchait justement le conjoint de se réaliser, puisqu'on répondait à un certain modèle enfermant. Et la nouvelle génération a actionné le champ des possibilités que nous permet l'international et que Patricia Glazel vient d'énoncer. Mmh. Évidemment, il y a une question d'âge, hein, puisque les VIE et toutes sortes de statuts ne sont pas possibles après un certain âge.
53% des expatriés aujourd'hui ont moins de 35 ans, hein, quand même. Ils restent quand même assez jeunes. Hein. Le départ à deux, c'est devenu l'un des nouveaux problèmes de l'expatriation, vous diriez, quand on parle maintenant du conjoint suiveur.
Hein. Tout à fait, et c'est le principal frein à la première expatriation d'un cadre. Donc c'est vraiment une problématique à laquelle il faut trouver une solution. Elles existent.
Hein. Même si on n'est pas marié, si on n'a pas d'enfant.
Encore plus, je dirais. Parce que souvent, si on n'est pas marié, c'est difficile. N'oubliez pas que derrière, il y a des questions plus complexes qui sont d'ordre juridique. Et ne pas être marié, ça veut dire avoir des difficultés pour un visa, bien souvent. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays, y compris l'Amérique du Nord, l'accès au travail du conjoint n'est pas automatique. Il faut un visa spécifique. Donc, toutes ces données, c'est sûr, vont complexifier quelque chose qui est une réalité pour les entreprises. Ils sont à deux, ils sont tous les deux à avoir une carrière. Et qu'est-ce que l'on en fait? C'est là que je pense qu'il faut aussi sortir juste peut-être du cadre du travail embauché par une grande entreprise et vivre cette expérience de l'international comme un enrichissement, un endroit où on peut apprendre plus, prendre un champ, c'est ce qui m'est arrivé. C'est aux États-Unis, j'ai complètement transformé ma vision du monde. C'est comme ça que je suis devenue une spécialiste de l'international.
Vous avez été conjointe
suiveuse. J'ai été conjointe en essayant de me dépatouiller parce que j'avais pas toujours accès au travail. Donc je montais ma propre structure, je m'associais, mais j'ai vu des gens revenir au pays, de si je puis dire, la France, mais c'est pas que la France.
Non, bien sûr.
Avec une expérience extraordinaire qui avait monté, par exemple, à Singapour. Elle avait une personne qui avait monté tout l'annuaire des expatriés il y a déjà 15 ans. Oui. Elle est revenue, elle a été embauchée comme responsable du marketing dans un très gros cabinet d'avocats parce que quelque part, elle avait accumulé un savoir-faire très important et qu'elle pouvait vendre en parlant en plus plusieurs langues. Donc en fait, je dirais qu'il ne faut pas rester enfermé dans la vision contrat, grosse entreprise, quand on accompagne encore plus.
Tout à fait. On peut acquérir des compétences extrêmement intéressantes et utiles en expatriation. Moi-même, j'ai dirigé un magazine à Singapour. Donc c'était, je pense, ça aurait été très difficile de le faire à Paris. Hier, j'animais une conférence à Sciences Po avec une experte égalité qui a changé de carrière grâce au passage à Singapour et là-bas en fait elle s'est occupée du marketing d'une compagnie théâtrale alors qu'avant elle faisait du marketing pour une grande multinationale de yaourt. Donc il y a une possibilité vraiment à trouver quelque chose, un emploi qui ait du sens, de nouvelles compétences que l'on utilisera en France. Mais je pense que ce qui est très important c'est de garder une cohérence globale à long terme de son projet, de ne pas trouver des petits emplois dans chaque pays qui finalement aboutissent à un projet très décousu et qui ait perdu tout son sens,
mais d'envisager le projet à long terme. Mais qui peuvent déjà être un premier pas, si je puis dire.
Il faut
pas non plus... C'est vrai que ça empêche de construire un projet de long terme, mais ça permet de rebondir.
Mais alors, ne tournons pas autour du pot. Quand on parle de conjoint suiveur, on parle la plupart du temps des femmes.
Oui, à 85%. De moins en moins, mais quand même,
de
Patricia.
De moins en moins. Ouais. Moi, je dirais qu'il faut pas oublier que dans les enquêtes que l'on a menées avec tous les expatriés qu'on envoie, on a 32% de femmes expatriées qui peuvent avoir un conjoint, qui sont très jeunes, qui sont des profils très jeunes, qui vont effectivement rentrer en France après pour monter une famille. Donc on a plus en plus souvent de conjoints hommes. Alors c'est pas général, hein, c'est pas la majorité, mais ils doivent eux aussi se trouver un projet. La structure pour eux n'est pas organisée, et donc je dirais que la tâche n'est pas toujours aisée.
Le nombre de femmes expatriées donc est en augmentation. Hein,
l'inégalité demeure.
Oui.
Là, je voudrais vraiment insister sur le fait que on a quand même globalement 80% d'expatriés qui sont des hommes, et que lorsqu'ils partent jeunes, en fait, les jeunes diplômés diplômés, les jeunes travailleurs en fait partent souvent seuls, même en étant en couple, acceptant d'être dans des pays différents, ayant pour objectif.
Parce qu'ils se disent ça va être compliqué.
Eh bien parce que autrefois, j'ai 43 ans, quand je suis partie, c'était possible que nous n'ayons qu'un salaire sur deux et que mon salaire, moi, puisque j'étais conjointe suiveuse comme Patricia Glazel quand j'ai commencé, donc c'était possible de vivre même très confortablement sur le salaire de mon époux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. À l'heure actuelle, de plus en plus, il s'agit de contrats locaux. Et donc, pour des raisons purement économiques, et c'est une bonne nouvelle pour les femmes, hein, il faut deux emplois. Mais la conséquence, c'est que finalement...
Parce que les contrats locaux sont moins avantageux financièrement que les contrats d'expatriés qui sont minoritaires aujourd'hui, les contrats d'expatriés.
Je dirais pas ça tout de même, Emmanuel. Je pense que ça reste... il y a plusieurs termes. Le détaché va être attaché encore au siège et aura un contrat local. Mais sachez que la réalité, c'est qu'il y a des contrats locaux plus, des contrats locaux plus. Alors qu'effectivement, on rentre dans quelque chose où, en général, les entreprises, les grands groupes ont besoin et auront de plus en plus besoin de talents qui seront leurs représentants à l'international. Donc, il y a une très forte demande, mais je dirais, là encore, ce sont des contrats de plus en plus
sur mesure,
et on n'est pas prêt d'avoir des entreprises qui se dégagent en disant je n'ai plus d'expatriés. Ça, c'est faux.
Stéphanie Talleux, les femmes sont très largement minoritaires pour les postes d'expatriation. Est-ce que ça veut dire que les entreprises continuent de proposer des postes majoritairement aux hommes? Ça se passe comme ça ou...
En France, il y a un frein culturel. On s'imagine que pour les femmes, on anticipe finalement leurs freins. Et moi, je voudrais dire aux femmes qui appartiennent à des grandes entreprises, allez-y, demandez, rendez-vous visible au sein de l'entreprise, exprimez votre motivation à aller à l'international.
Mais allez-y, demandez, et que fait le père de mes enfants, que fait mon conjoint si j'y vais et que je demande?
Eh bien, c'est une négociation. C'est de toute façon l'expatriation. Ce qui est vraiment important de le savoir, c'est que c'est un projet qui se construit à deux. Donc, il est important de mettre à plat les besoins que chacun des deux a au niveau personnel et au niveau professionnel, parce que là, on a parlé beaucoup du professionnel, mais il est très important qu'il y ait des satisfactions sur le plan de sa vie personnelle. Donc, et elles sont différentes pour l'un et pour l'autre. Donc, mettre à plat cela, c'est une occasion de remettre les compteurs à zéro.
Oui, comme vous dites, trois couples sur cinq ne survivent pas à l'expatriation. C'est ce qu'on peut lire, vous confirmez.
C'est vrai,
souvent,
c'est là qu'on voit que
nous n'aurons pas trop de 47 minutes pour parler de tous ces problèmes-là. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler, témoigner et questionner nos invités.
Touching the sky, my day seems a bit brighter now. Taking a flight, I'm gliding and it feels so right. I won't be jaded, it won't be wasted. Golden mile of rising the sun. I won't be jaded, won't leave things fading. Let me tell you once again, I would trade a thing I'd gain. But in the end, don't tell me this is just a plan. In the scheme of things, I'm seeing it all clearer now.
Sun FM Letty chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des nouveaux visages de l'expatriation et entre autres du casse-tête de partir à deux avec un conjoint ou une conjointe.
suiveur ou suiveuse. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes au téléphone avec Siegfried qui nous appelle de Madagascar. Bonjour Siegfried.
Oui, bonjour Emmanuel.
Siegfried, on est ravi de vous accueillir. Vous êtes un voisin allemand, mais vous vivez à Madagascar.
Exactement, ceci depuis 30 ans.
D'accord, vous êtes à Madagascar depuis 30 ans.
Oui.
Et votre carrière auparavant, vous avez énormément voyagé, travaillé dans de nombreux pays.
Exactement, depuis l'âge de 23 ans, après mes études, mon motif principal, c'est d'élargir mon horizon et de chercher très tôt une possibilité, une opportunité. Bon, de connaître d'autres cultures et d'autres mentalités, mais dans un cadre professionnel qui me convenait.
Alors, vous avez travaillé, entre autres, en Malaisie, en Côte d'Ivoire, c'est bien ça ?
Oui, exactement.
Mais à chaque fois, vous êtes parti, alors, poursuivre une femme, tout seul, comment ?
Mixte, c'est-à-dire au début, mon premier départ, c'était en Algérie. J'étais encore célibataire. Hein ? Quand j'étais de retour, j'ai passé 4 ans en Allemagne. Et pendant ces 4 ans, j'ai connu ma future épouse. Elle était malgache. Je l'ai connue au Kenya. Bon, ça c'est des détails.
Ouais, c'est
mais le prochain départ, c'était pour la Malaisie. Là, je suis parti avec mon épouse.
Ouais.
Qui, donc, n'avait pas... elle était jeune mère. On avait ouais. notre premier garçon de 4 mois. Donc, elle était pleinement occupée par là.
Ouais. Et donc, c'est vous qui aviez le job en Malaisie.
Oui, exactement. Là, j'étais ingénieur conseil dans la construction d'une usine pour une entreprise privée. Et après 3 ans, on est rentrés ensemble avec l'enfant. Entre-temps, il y a eu un deuxième enfant né en Malaisie. Et puis, on est revenu en Allemagne. Et au bout de 2 ans après, on est reparti sur la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, j'étais consultant pour le gouvernement allemand.
Oui.
Et c'était un autre objectif. Mais ça, cette fois-ci, mon épouse était toujours avec moi et elle s'occupait de sa propre formation. Elle a commencé à se former dans le secrétariat, dans le management sur place à Abidjan.
Et aujourd'hui, alors, à Madagascar, alors, quand vous êtes arrivé à Madagascar, vous étiez le conjoint suiveur puisque votre épouse était malgache. C'est elle qui avait un point de chute professionnellement parlant ou pas ?
Non. Malheureusement, entre-temps, mon première épouse était décédée. Et ça a fait un certain break à toutes mes activités, mais je n'ai pas lâché ma perspective de m'établir à Madagascar parce que j'aimais beaucoup ce pays, je l'avais déjà visité. Et donc j'ai rencontré une autre personne avec laquelle je suis marié. Et cette dame, elle avait depuis le début un projet propre à elle, qu'elle a réalisé jusqu'ici, c'est dans l'hôtellerie. Et là, d'abord, j'avais encore mon activité à moi, mais plus tard, j'ai arrêté cela et j'ai commencé à appuyer ma femme dans l'activité de l'hôtellerie jusqu'à aujourd'hui.
Vous voulez intervenir, Stéphanie?
Oui, je voudrais féliciter Siegfried parce que je suis toujours épatée de voir un parcours international comme cela, cette capacité à se réinventer dans chaque pays, à y intégrer la famille, l'épouse. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'épate. Je voudrais lui tirer mon chapeau. Souvent, on le fait de façon empirique. Hein, et donc, ce qui est plus confortable, c'est d'avoir du recul sur la chose et finalement de se dire je gère mon projet, tout comme on gère une entreprise pour éviter justement les risques qui peuvent être liés à ce type de parcours impressionnant.
Et alors justement, Siegfried, qu'est-ce que vous pourriez tirer comme conseil pour les autres auditeurs dans votre parcours incroyablement riche et presque toujours à deux, même si vous avez connu le deuil, hein ?
Oui, c'est vrai. Ben, je dirais tout d'abord, il faut avoir le goût de l'ouverture culturelle. C'est-à-dire, moi je viens à l'origine d'un petit village en Allemagne. Donc pour moi, c'était toujours la grande porte ouverte sur le monde. C'est ça, c'était ma première motivation. C'est pour cela que j'ai appris tout de suite 2-3 langues. Et aujourd'hui, nous sommes tous à 4 langues dans la famille, même les petits-enfants. Et c'est un enrichissement incroyable.
Bon, ben en tout cas, bravo pour votre français qui est absolument magnifique.
Oui,
merci pour ce témoignage, Siegfried à Madagascar, allemand d'origine. Stéphanie Talleux, Patricia Glazel, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le flash. Comment partir à deux, réussir à deux, les voisines et les voisins? Vous nous appelez tout simplement si vous travaillez en dehors de votre pays pour nous raconter cette parenthèse professionnelle ou pas d'ailleurs. 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes.
Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons de l'expatriation aujourd'hui, quitter son pays pour accepter un poste à l'étranger dans une entreprise ou dans son entreprise d'origine ou dans une nouvelle entreprise ou encore pour travailler en indépendant, tout est possible. Les visages de l'expatriation sont multiples, on le disait en première partie, hein, aujourd'hui. Ça s'est énormément complexifié, mais lorsque l'on est en couple, la question est plus pertinente que jamais. Que va faire le conjoint suiveur ou la conjointe? Une question que les entreprises d'ailleurs n'ont pas forcément envie de prendre en considération. On en discute avec vous, Patricia Glazel de Berlitz Consulting. Et puis pour le débrouillez-vous, là il faut plutôt suivre vos conseils, Stéphanie Talleux, parce que vous travaillez surtout avec des individuels. Vous vouliez rebondir à nouveau sur ce que nous disait Siegfried juste avant le flash, hein, cet Allemand qui, Allemand d'origine, mais qui a tellement voyagé tout au cours de sa vie, puis qui maintenant est installé à Madagascar depuis 30 ans.
Oui, tout à fait. À travers son témoignage, il y a une donnée très importante qui m'apparaît, c'est que le projet comporte un aspect personnel et professionnel. Depuis le début de l'émission, on a beaucoup à parler des aspects professionnels, mais ce que l'on observe en travaillant avec les gens sur leur projet, c'est qu'il y a un débordement des problèmes qui peuvent surgir dans la sphère personnelle sur la sphère professionnelle. Et donc, les deux doivent être construits ensemble.
C'est ça, l'aspect psychologique est très important. Plus on vit son expatriation comme un enrichissement personnel très fort, mieux on saura la revendre aussi au retour, non ?
La décision, de toute façon, est prise en amont et repose essentiellement, malgré les apparences, sur une décision liée au personnel. Dans l'enquête que l'on a menée, 80%, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Emmanuel, de personnes qui partent à l'international, comme Siegfried, ont envie de voyager, de découvrir le grand monde. Et on passe à 94% quand ils ont un enfant et qu'ils veulent l'exposer à l'international. Oui. On voit bien que, et ça, je peux témoigner pour les entreprises que je rencontre tous les jours, ainsi que les individuels, c'est qu'ils sont très conscients des deux côtés que la grosse différence, je dirais, entre un national et un international, c'est que la sphère personnelle rentre en jeu. Et de plus en plus d'entreprises ont compris que quand elles envoient quelqu'un à l'international, elles vont aussi rencontrer son conjoint. Parce que si problématique il y a, il ne s'agit plus d'un employé lambda, mais du groupe que représente sa famille. Donc tout ça nous force à prendre en considération, en définir les limites n'est pas facile, la sphère personnelle dans l'international, puisqu'on voit qu'elle agit à tous les niveaux.
Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises vont jusqu'à, lorsqu'elles ont envie d'envoyer un cadre à l'étranger, vont jusqu'à proposer leur aide pour trouver
Absolument.
Un emploi au conjoint?
Absolument. Les grands groupes du CAC 40 se sont associés et proposent systématiquement à des clubs où si, par exemple, je pars pour Danone, eh bien peut-être qu'AXA va me proposer un job pour mon conjoint. Ça existe, c'est très présent.
C'est ça, elles se sont mises en réseau, ces grandes
entreprises. En réseau, de façon à pouvoir offrir des postes adaptés. Ça, c'est une grande sensibilité.
Temps, moi, j'aimerais bien savoir quel est le résultat chiffré, parce que en fait, quand on va se renseigner sur les résultats chiffrés effectivement de qui a eu un poste effectivement qui a pu continuer
grâce à l'entreprise de son conjoint qui s'est mis en réseau
et ça je serais très curieuse de les avoir parce que rencontrant très souvent ce type de des gens comme cela qui sont dans ces réseaux là
sur le papier c'est très beau mais
c'est vrai,
ça fonctionne.
C'est vrai, il faut pas sous-estimer les initiatives qui existent font pas de miracle, c'est certain, mais qui sont vraiment prises en considération à haut niveau, j'en suis témoin. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que on voit des entreprises qui vont offrir de postes et partir de ce principe quand elles peuvent. Et on voit aussi là que même, je rencontre beaucoup de femmes qui ont envie à un moment donné de leur vie de lever le pied, ce qui est peut-être une erreur, mais qui se disent c'est l'opportunité pour moi d'avoir des enfants, de m'occuper de ma famille. Je n'encourage pas toujours cela, je dois le dire honnêtement, et on invite à ne pas le faire, mais il faut le respecter aussi. Ceci dit, il faudra bien avoir en tête qu'on ne peut pas être en situation de Sandra, et je comprends parfaitement ce qui lui arrive,
le témoignage que
vous lisiez au début,
femme
qui va être la typique Thai, on appelle ça en Asie, effectivement, on devient la femme du Kun Thai, et on ne fait rien. je crois qu'aujourd'hui, ces environnements nous offrent la possibilité, à notre façon, de nous former, de nous ouvrir, de nous développer. Et c'est là qu'il faut pouvoir accélérer sans non plus compter trop sur d'autres entités ou sur son entreprise.
Oui, je pense que ce qui est très important pour le bien-être des conjoints, c'est qu'ils prennent en charge eux-mêmes leur projet. Et finalement, ce qui peut être extrêmement déstabilisant et baisser la confiance en soi, c'est justement quand l'entreprise de son mari finit par avoir trop d'importance dans sa vie. Moi, je me souviens très bien, quand je suis arrivée à Londres, j'avais 28 ans, et qu'on me présentait comme Stéphanie Talleux de chez Paribas, c'était alors que j'avais eu un début de carrière personnelle et que voilà, j'étais quelqu'un, quoi. J'avais une personnalité, c'était extrêmement difficile à vivre.
Le témoignage de Sandra était intéressant, elle a raison, il y a ce phénomène de dépersonnalisation, mais on peut facilement le contrer, comme
alors,
vous disiez.
Alors, je voudrais qu'on accueille un expatrié, Jacques, qui est à Brazzaville, au Congo-Brazza. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Jacques, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Les autres, dépêchez-vous aussi de composer le numéro de téléphone si vous voulez passer dans l'émission qui passe vite. Alors vous êtes alsacien d'origine et vous travaillez dans le bâtiment en tant qu'expatrié. C'est bien ça aujourd'hui à Brazza?
Alors je ne suis pas à Brazza directement, je suis à Pointe-Noire.
Ah d'accord.
Mais dans le Congo-Brazza. Mais toujours est-il effectivement que j'ai commencé en tant que frontalier. Donc je m'exportais en Allemagne à l'époque, donc j'ai commencé mon boulot. Ensuite, je suis allé à l'export en Arabie Saoudite, donc je parlais l'anglais également. Donc je suis allé en Congo, là c'est le premier pays que je fais. Ça fait 10 ans que je suis là, et bon, je suis un nomade, c'est un peu ma mentalité, c'est de voir et de comprendre les gens. Et de m'adapter à ce qui se fait, puis de chercher à comprendre leur culture et les éléments, voilà.
Ah oui, vous dites « je suis un nomade ».
Mais je pense qu'à partir Stéphanie du moment où on a pris goût à l'expatriation, on ne peut plus oublier que le monde est si divers et on devient addict. Et d'ailleurs, si on évoque la problématique du retour, on est un international à vie à partir du moment où on est passé de pays en pays et qu'on a aimé ça.
C'est ce qui s'appelle une carrière nomade, là, la carrière de Jacques, telle qu'elle se dessine.
La carrière nomade, en fait, au départ, n'a pas forcément à voir avec le fait d'aller à l'étranger. C'est une carrière où on s'autorise à sortir, à passer d'une entreprise à l'autre, à passer d'un statut à l'autre, de salarié à entrepreneur.
Un état d'esprit,
en fait. C'est un état d'esprit.
Mais alors, Jacques, vous nous avez pas dit l'essentiel. Vous partez toujours tout seul, là, ou pas lors de vos différents postes?
Quand j'étais en France, j'étais marié tout au départ. Donc j'ai eu à divorcer après mon passage à Berlin. Ah. Donc j'ai divorcé de ma première femme, effectivement.
C'est-à-dire que l'expatriation vous a conduit au divorce ou n'a pas votre couple n'a pas résisté à l'expatriation à Berlin ou pas?
Oui, il y a eu de ça aussi. Il y a eu, vous savez, vous avez tous les phénomènes qui se passent dans un couple. Du moment que vous ne pouvez pas être là en permanence, vous avez forcément des aléas qui sont différents. Il y a des besoins et des aléas qui sont différents de part et d'autre. Donc après, il faut savoir ce que l'on veut et comment on peut gérer sa propre famille. En France, j'ai 2 enfants. C'est vrai qu'ils sont donc en France ou non. Mais ici, je me suis placé avec une Congolaise. Ça fait 10 ans que je suis au Congo. Je viens d'avoir un enfant. C'était pas prévu en tant que tel, mais je fais tout pour que l'enfant puisse avoir une pérennité maximum. Et puis le travail doit être en conséquence.
On sait que les couples sont mis à mal à l'international parce que justement, il y a souvent un suiveur. Il y a une illusion, c'est ce que j'expliquais aussi, l'illusion que c'est une expérience familiale, qu'on va pouvoir profiter de son conjoint, de ses enfants, alors qu'on se trouve de plus en plus devant une réalité où on est exposé à une concurrence très rude, à des enjeux difficiles. Et donc, en fait, ça va être une véritable étape et une épreuve, je dirais, à laquelle il faut donc se préparer. Et il faut pas que ça repose sur des représentations qui vont s'avérer être complètement fausses, d'où l'importance d'avoir tous les deux un projet. Oui. Si on ne repose que sur le projet de l'autre, effectivement, on prend de très grands risques au niveau familial et on prend le risque d'une séparation et puis de se retrouver. Je trouve que l'international est une expérience dont on ne revient pas, c'est vrai, mais il faut pouvoir tenir les rênes.
Dont on revient changer.
Qu'est-ce qu'on fait? Ou à quel moment je l'arrête? À quel moment je suis conscient et je ne suis pas simplement portée par les flots.
Jacques, merci pour ce témoignage. Je voudrais qu'on accueille une voisine
qui nous appelle de l'île Maurice. Sophie au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour. Je voulais vous faire part quand même de notre expatriation. On est venu en couple s'installer il y a 3 ans en île Maurice avec un garçon de 14 ans, qui a 14 ans aujourd'hui. C'était un départ qui venait de moi. C'était un réel choix de venir vivre à l'île Maurice, un coup de cœur. Et en fait, c'est mon conjoint qui a décidé de me suivre. Lui, c'est un petit particulier. Il était en France, il faisait beaucoup de sponsoring. Et vu le contexte, la crise, tout naturellement, il s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas changer de vie.
Ça a été difficile, la discussion dans le couple. C'est moi qui pars, tu me suis. Ou est-ce que ça te dirait de me suivre? Ou comment ça s'est passé, la discussion? Comment ça s'est amorcé entre vous, Sophie, et votre mari?
En fait, l'idée mûrissait depuis un moment de mon côté, hein, et en parlant à mon mari, tout naturellement, on s'est dit, voilà, la France est compliquée, on était en Bretagne, mon mari navigateur, donc il fait de la course au large, il a fait 2 ans des globes. Mmh. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans ce contexte-là, où c'est la bagarre pour trouver vraiment du sponsoring? Ou alors, on essaie de faire autre chose, on tombe de coup à l'étranger, et l'île Maurice, qui était vraiment un réel coup de cœur, avec les facilités, c'est assez francophone, la Réunion est à 45 minutes, en fait, il y avait peu de risques. Donc on a créé une ONG, ouais. Qui permet de faire naviguer gratuitement les enfants des quartiers défavorisés. On a 250 enfants aujourd'hui, ça s'appelle la Céline pour tous.
Oui.
Et à côté de ça, mon mari, lui, a trouvé une activité hein, où il fait des entraînements de navigation, il travaille beaucoup sur les bateaux, etc. Et c'est vrai que jusqu'ici, je travaillais avec lui, et là, j'ai envie d'être un petit peu autonome et de pouvoir avoir un travail de mon côté, soit créer quelque chose, soit travailler ici. Ah, bon, là, je suis en pleine prospection, ouais. En fait.
Alors voilà les nouveaux visages de l'expatriation. Là, hein.
Sophie, c'est un vrai témoignage, c'est très intéressant. Et je trouve que votre message invite à voir que le monde est grand, qu'on peut en sortir, qu'on peut tenter des expériences. Et je trouve que ça fait vraiment partie des nouvelles expériences qu'il ne faut pas tenter sans avoir pris en considération beaucoup de choses que vous semblez avoir fait, mais qui valent la peine d'être vécues, à vous entendre.
Ce qui est intéressant de voir...
Oui, Sophie.
C'était pas un coup de tête, c'était vraiment réfléchi. On avait en plus un enfant qu'on emmenait avec nous qui avait 11 ans. Le bilan aujourd'hui, mon mari, on travaille, on est vraiment intégrés, des amis mauriciens. Mathias est bilingue en anglais et en français sans aucun problème. C'est une réelle réussite.
Mais vous, alors vous gagnez de l'argent également, Sophie, ou pas? Ou vous occupez essentiellement de l'ONG?
Moi je suis bénévole au sein de l'ONG. Ouais. Par contre, je travaille avec mon mari parce que c'est de la recherche de sponsors. On a des sponsors locaux.
Donc vous pensez que vous arriverez à vendre cette expérience-là, la recherche de sponsoring pour votre mari navigateur, l'ONG, etc. Ça, c'est quelque chose que vous arriverez à vendre, entre guillemets, hein, pardon du terme, hein, à votre retour, si vous revenez en Europe un jour?
Ah oui, tout à fait. C'est une expérience, justement. Je pense que il y a beaucoup de couples maintenant qui ont envie de bouger, qui ont des enfants en bas âge. On en croise régulièrement l'île Maurice. Des gens qui viennent, qui ont un coup de cœur, qui se disent oui, pourquoi pas. Et en fait, qui cherchent le créneau. Alors, c'est pas évident parce que ça reste une île quand même. Donc, il faut savoir y partir de temps en temps. C'est petit, hein. C'est 65 km de long. Mais par contre, il y a une réelle ouverture sur le monde du fait de cette multiculture. Bah
effectivement, puis en plus, quand on a épousé un navigateur, ça aide.
Oui,
merci Sophie, merci beaucoup pour votre témoignage.
Je trouve que c'est très intéressant parce que, en fait, ce que l'on voit, c'est que ça correspondait, l'île Maurice, à leur style de vie aussi, et peut-être probablement à leurs valeurs pour cette famille. La première chose sur laquelle on travaille quand on travaille sur avec un couple, c'est sur leur motivation profonde et sur la construction. Parce que là, on a la notion de rêve, c'est l'île Maurice. Et l'expatriation est souvent associée au rêve. D'ailleurs, c'est binaire, c'est soit rêve, soit cauchemar pour les gens. Mais là, ici, le rêve...
Dans la réalité aussi, d'ailleurs, ou ça peut être plus mitigé?
La réalité, évidemment, est au milieu. Et l'île Maurice, il y a une grande différence entre passer ses vacances quelque part et s'expatrier, y vivre. La différence est abyssale. Donc, après le projet, faut le construire, parce qu'il faut vivre sur place.
Je voudrais vous lire un témoignage qui nous parvient d'une femme qui n'a pas envie de parler au téléphone, Annie, à Ouagadougou, qui soulève... vraiment une histoire compliquée. Mon mari vient d'être nommé dans une banque au Sénégal à Dakar. J'ai envie de le rejoindre, mais j'ai peur de ne pas trouver quelque chose sur place. Ici, j'ai un bon travail. N'est-ce pas trop difficile pour une femme de s'expatrier? Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation.
Absolument. Et je pense que son témoignage est formidable, d'autant plus en Afrique, où les phénomènes d'expatriation sont très renforcés, parce qu'on manque de talents en Afrique et les talents s'arrachent d'un pays à l'autre en Afrique. On voit un vrai phénomène justement familial, avec des difficultés que j'ai vues en arrivant au Sénégal. mondial, on pensait que les Ivoiriens s'intégreraient bien, ou les Maliens. C'était pas du tout le cas. Donc on voit une vraie problématique, bien souvent des femmes expatriées d'ailleurs, en Afrique peut-être plus qu'en France, mais dans ce qu'évoque Stéphanie, c'est ça?
Annie Awagadougou.
Je trouve que là, ça mérite de savoir, de vraiment analyser le problème, ouais. De analyser cette opportunité qu'elle a, combien de temps son mari est appelé à vivre là-bas, qu'est-ce qu'elle perd vraiment, est-ce qu'elle n'a aucune opportunité de trouver une mission dans le pays, parce que laisser partir son mari, c'est un peu accepter de détruire momentanément sa famille ou à long terme. Il faut pas se voiler la face, donc c'est une décision importante. Et puis sinon, on peut construire un projet où on essaie de trouver une situation à court terme, et ça se travaille et ça se trouve, parce qu'il y a des vrais besoins en Afrique aujourd'hui.
Il est vraiment important de, là, à partir du moment où on est dans cette situation-là, de comprendre et d'appliquer les techniques de carrière duale. Et les techniques de carrière duale, quand on est à l'international, nécessite d'accepter des moments d'ajustement. C'est-à-dire, mon mari part et je le rejoins dans 6 mois, par exemple. Ou alors, il part, ok, je vais le rejoindre, je quitte mon poste, mais je me sécurise sur le plan financier. Une conjointe d'expatriée qui est partie en Asie, suivre son conjoint, m'expliquait que avant de partir, ils avaient verrouillé la sécurisation de sa retraite, que son mari, son conjoint, en fait, ils ne sont pas mariés, donc son conjoint avait mis tous les comptes joints, alors qu'ils ne les étaient pas avant, qu'ils avaient investi dans un appartement pour elle.
Je pense que c'est très important, tous ces aspects.
Elle avait exprimé ses besoins.
Et on peut aussi envisager de faire plusieurs missions de reconnaissance, ou bien d'avoir une année où on se met en disponibilité auprès de ça. Donc on retrouve un travail après. Donc il y a beaucoup de possibilités. Il ne faut pas rester bloqué. Il faut chercher.
Et puis il y a le retour aussi, avec parfois les déceptions, les effets sur la carrière et pour le conjoint suiveur, comment rebondir professionnellement, on a commencé à en parler. Je voudrais que vous nous donniez dans quelques instants des conseils pratiques pour tous ceux qui partent à deux, qui rentrent à deux, et pour qu'il n'y ait pas trop de casse. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 84 22 71 71. Like a magician, critics, I turn up. Got them still on the fence, sweated up. But quick to get impaled when I tell them. So sick from looking pale. Oh, that's my pee. About to go ahead. Now, bitch, shout out to P-G. Let's bring it back to that vintage slim. The art of MCN mixed with Da Vinci and MC Ren. And I don't mean Stimpy's friend. Been public enemy since you thought P.E. was Jim. Bitch. Shoes off, let your head out.
That I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace. So I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat freshen in wet paint. So weak love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, dang, bang, bang. Yes, sir, Bob, I was thinking the same thing. So come get on this kid's rock, Bob with the bop, dang, dang. Pow, 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 chicka, pow, chicka, wow, wow. Catch a girl, blowing up a pow, pow, pow. And slow it down, throwing the town to the town, town. Going down, I don't know how, how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so. Now hold. Kick shoes off, let your head out. And all night long. Pull your beard out, just weird out. And all night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the ears. So break the pace up like crazy. Let yourself go, let yourself go. I say fuck it before we kick the bucket. Wife's for shorts and I go.
Berzé
Berserk, Eminem, chez 7 milliards de voisins sur RFI. On parle de l'expatriation, parfois pas aussi rugueuse que ce qu'on vient d'entendre, hein, mais tout de même difficile avec des questions à se poser, d'autant plus que maintenant, les gens ont envie de partir à deux et les conjoints, les conjointes, hein, ne nous voilons pas la face, il s'agit la plupart du temps de conjointes, évidemment n'ont pas forcément envie de laisser leur carrière, leur job dans leur pays d'origine. Alors peut-être quelques derniers conseils, Patricia Glazel et Stéphanie Talleux, sur ce partir à deux, les bonnes questions à se poser, à sécuriser.
Moi, je dirais que l'expatriation, on peut l'envisager comme un outil, un moyen. Et se poser la question, sur le plan professionnel, c'est qu'est-ce que va m'apporter cet outil pour ma carrière ? Est-ce que ce sera acquérir une nouvelle compétence, parfois une compétence sur laquelle le pays dans lequel je vais habiter est pionnier et meilleur que ce qu'on peut qu'en France, augmenter dans la hiérarchie, connaître un nouveau business, être spécialiste dans un certain domaine. Donc, voir de quelle manière on peut s'enrichir professionnellement à ce niveau-là, acquérir des compétences interculturelles aussi, ouais. Évidemment.
Moi, je dirais que mon expérience m'a prouvé que l'expatriation, tout le phénomène d'internationalisation, parce qu'on va parler aussi du retour, on devient des êtres internationaux, on n'a plus de retour en arrière possible, on a ouvert son esprit, est très, très récurrent. Il y a toujours les mêmes écueils, toujours les mêmes expériences, toujours, vous parliez de la problématique du couple, elle est surconnue. Et quand quelque chose est surconnu, si on arrive à le formaliser, on en a la maîtrise. On ne tombe pas dans le piège au premier virage. Donc moi, j'encouragerais tous les gens à se renseigner, à obtenir des compétences et des compétences et des compétences au niveau personnel et professionnel pour que eux deviennent de véritables acteurs et qu'ils n'aient pas à subir.
Et puis avec l'enseignement à distance, ça peut se faire aussi
distance,
si on a un peu de temps libre.
Les formations de l'interculturel, la capitalisation des savoirs qui va être un outil déterminant dans le retour et dans ce que l'on fait de cette expatriation. Qu'est-ce que j'acquiers? Comment je l'utilise?
L'accompagnement se fait par Skype.
Et le retour pour celui qui est parti avec un poste bien prévu et pour le suiveur ou la suiveuse, comment ça se passe?
Alors d'abord, premier conseil, il faut anticiper le retour. Pour la personne qui est partie pour son entreprise, il ne faut pas attendre que l'entreprise vous fasse revenir. Il est vraiment important d'abord d'être visible, de rester visible auprès des gens qui sont restés au siège, de communiquer auprès d'eux sur les réalisations qu'on a fait à l'international. Or, le réflexe souvent est d'être à l'étranger et d'apprécier la liberté et l'autonomie que cela apporte. Donc, rester visible.
C'est un piège, ça, donc.
Oui, tout à fait. Et continuer à communiquer avec le siège pour continuer à connaître les personnes clés, parce qu'il arrive bien souvent qu'au retour, on ne connaisse plus personne.
Mais globalement, qu'on soit parti pour son entreprise, qu'on soit parti pour un travail dans une autre entreprise et qu'on veuille rentrer dans encore une autre entreprise, un autre poste, quel effet sur la carrière, Patricia Glazel? On risque d'être déçu ou pas?
Rien. Non, ça peut être fantastique, c'est encore pareil. Moi, je pense que si on a organisé cette action, il y a trop de personnes qui sont en situation, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de dépendance, qui attendent qu'on leur propose un poste, qui attendent qu'on gère leur retour, parce qu'on a géré le départ, souvent quand c'est lié à des... Or, il faut se gérer soi-même, une fois encore. Et là, je pense qu'on peut en faire quelque chose d'extraordinaire et d'unique, parce qu'on revient avec des compétences uniques, mais on le sait pas. On ne sait pas en parler, on le centralise trop sur moi qui ai vécu à Hong Kong, moi qui ai vécu à New York, je fais la différence. Et ça, je le rencontre tout le temps avec plein d'amis à moi qui reviennent. J'ai vécu au Japon, donc franchement, ils vont savoir apprécier. Non, personne ne sait apprécier si vous ne savez pas transférer, si vous ne savez pas en faire profiter les autres. Donc, changez aussi de posture. On n'est plus le pionnier aventurier, on est le passeur de savoir.
On prend une dernière auditrice, Lorraine, je crois, qui nous appelle du Sénégal. Bonjour, Lorraine.
Bonjour.
Lorraine, alors vous posez la question du retour. Ça fait combien d'années que vous êtes sur le continent africain ?
Bon, moi, ça fait 10 ans parce que je suis à la retraite et toutes mes années de travail, je les ai passées à l'étranger. Mais j'étais expatriée volontaire, voyez-vous, c'est un petit peu différent. Alors moi-même, j'ai visité des pays, j'y suis restée, j'ai trouvé des contrats, notamment en ambassade, etc., etc. Et alors, ce que je disais, que quand on veut revenir en France, d'abord, premièrement, on perd tous ses amis, on perd ses points, ses repères, etc.
Ah oui, en 10 ans, oui. Bon. Oui, oui, Lorraine. Ah, téléphone mobile.
C'est important, en fait, là,
elle était en train de nous dire, Lorraine, qu'en fait, on perd tous ses amis. Et elle a dit au standard, surtout, ça je le sais, c'est qu'en fait, on ne peut plus rentrer d'une certaine façon.
Mais bien sûr que si. Mais ce qui est important aussi, c'est de cultiver ces réseaux, de rester en contact. Oui. Et aujourd'hui, quand même, avec tous les moyens techniques qui sont à notre disposition, entretenir aussi.
C'est quand même vécu par pas mal d'expats. Là, elle a pris sa retraite au Sénégal.
Absolument. Mais je la comprends et elle a bien raison.
C'est un beau pays.
l'idéal pour Lorraine serait de travailler sur une bi-retraite, une tri-retraite. C'est-à-dire qu'effectivement, si elle se sent bien au Sénégal, ça serait dommage de pas y rester. C'est un pays fantastique et qu'elle en profite. Mais se sentir en mauvaise position quand elle est de retour en France, ça, c'est triste par contre. Et c'est là où il y a véritablement un travail à faire qui n'est pas
lié. Largement partagé.
Largement partagé. Pourquoi? Pas parce que les autres ont changé fondamentalement. On perd ses amis parce que nous-mêmes, on a tellement changé en 10 ans. On n'est plus la même personne. Alors, qu'est-ce que l'on va retrouver comme environnement qui va nous convenir, Lorraine? En fait, c'est l'environnement des internationaux et des expatriés
en
France.
Alors, vous voyez entre vous, par exemple?
On voit beaucoup moi, bien sûr, j'ai tout fait pour retravailler des réseaux français parce que j'ai pris soin de rentrer en France assez vite. Mais évidemment, je me fais un plaisir immense et pas plus tard que samedi dernier, je retrouvais tous mes amis de Chicago, de Singapour et on faisait des soirées ensemble.
Ça vous démange toutes les deux de repartir pour vos différentes vies à l'international?
Moi personnellement, je me sens expatriée en France. Je travaille avec des internationaux, des gens sur des problématiques internationales.
Mais vous avez envie de repartir? Vous avez cette démangeaison? Mais je reprendrai bien un poste quelque part, 3 ans, 4 ans.
À l'heure actuelle, en fait, et ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, j'ai des adolescents et c'est très difficile de partir avec des adolescents.
Ah bah voilà, on fera une émission la prochaine fois.
Pour ma part, je reste globale profondément. Je voyage très régulièrement. Je suis tout le temps en prise avec l'international. Mais je suis contente d'avoir trouvé un socle.
Merci en tout cas à toutes les deux. Stéphanie Talleux, consultante spécialiste de l'expatriation. Vous avez publié plusieurs guides sur le sujet. Réussir ma première expatriation et conjoint d'expatrié. Votre carrière continue. Ça, c'est chez Studirama. Et Patricia Glazel, donc, directrice de Berlitz Consulting. Vous pouvez aussi réécouter notre émission récente sur les étudiants et les jeunes diplômés qui quittent la France pour trouver un premier emploi plus vite. Tout est sur notre page, c'est très simple à trouver. 7 milliards de voisins sur le site rfi.fr, il y a des archives. Voilà. Demain, 7 milliards de voisins, émission enregistrée à Deauville à l'occasion de la 10e édition du Women's Forum. J'accueillerai 3 femmes engagées et puissantes pour la cause des femmes. À demain les voisins, les voisines, merci de votre fidélité.